19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2019 et vous êtes dans Time Sport comme chaque soir de 19h à 20h. Avec vous, chers auditrices et auditeurs, dans cette émission, vous pourrez réagir, on le rappelle, avec toute l'équipe en composant le 01 53 48 3000 et aussi sur la tutosphère pour réagir avec vos consultants toujours connectés. Au menu de cette émission, on aura l'accord de principe pour Valentin Rogier du côté de Marseille qui répond favorablement aux exigences des Canaries du FC Nantes. Le cas Hatem Ben Arfa, on reviendra là-dessus. La FIFA qui a dévoilé ce mardi le logo officiel de la Coupe du Monde 2022, sans oublier aussi les interdictions de déplacement des supporters en Ligue 1 Conforama. C'est parti, Hugo Tamsport. Oui, tu m'as dépassé. C'est Hugo, comment ça va Hugo? Notre réalisateur, il est toujours là, à fond la caisse.
À fond la caisse, super chaud hein, pour cette nouvelle émission.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner en plateau, on a les deux ravissantes demoiselles qui nous accompagnent. En la personne de Alison Nkunku, comment ça va Alison?
Ça va très bien, merci.
Oui, super sympa de t'avoir avec nous en cette rentrée. Et aussi Anna Guézard-Boakaz, comment ça va Anna?
Bonsoir, ça va, je suis en forme et je suis ravie d'être avec vous.
Eh oui, tu fais ton grand retour avec nous, Anna. Faut le rappeler à tous les auditeurs de Beurre FM. Sans oublier Vivien Boyebanga qui va nous rejoindre et Simon Balachev. Comment ça va, Simon?
Boa tarde, buenas tardes, ça va très bien.
Ouais.
Je sais qu'on va pas en parler, mais moi je veux juste dire un mot.
Alors,
de la Vuelta, cher à notre ami Juan José Dorado.
Il était avec nous là.
Écrasé par Primoz Roglic hier, le contre-la-montre, il a pris la tête. Il a relégué tout le monde, c'est un monstre. Le Slovène et une belle étape un peu de plat aujourd'hui gagnée par l'Espagnol Iturria qui a fait un magnifique numéro de soliste.
Ça c'est pour le cycliste, le cyclisme. Et justement concernant la Copa Libertadores, avant d'enchaîner cette émission, les deux clubs phares, River face à Boca Juniors, demi-finale je crois.
Écoute, on reste sur une finale palpitante à l'aller, désastreuse, tragique et honteuse au retour. Donc, quoi dire? Franchement, ce Boca River, on va voir si ça se passe dans des conditions, on va dire, dignes de ce que demande le football, le fair play, etc. Quoi. Mais voilà, on n'espère pas revoir les mêmes scènes de violence que l'an passé.
C'était
catastrophique et honteux pour le football argentin.
On reviendra justement sur ce football mondial, voire sud-américain. Allez, on rejoint la Canebière.
Time Sport, le ras-le-bol.
Accord de principe pour ce joueur, Valentin Rogier. L'OM répond donc favorablement au FC Nantes. Mais c'est qui le patron? Messieurs, dames, ce bras de fer entre les deux clubs ne met-elle pas en relief la perte d'influence de ces Olympiens sur l'échiquier national? Alison.
Ah bah clairement, là c'est le FC Nantes qui fait un petit braquage, hein. Il réussit à vendre son joueur, Valentin Rogier, avec quasiment toutes les conditions qu'ils avaient demandées. Il s'en tire avec un peu moins de 20 millions d'euros, sachant que l'OM perd quelque part parce que ils ne feront jamais une plus-value sur ce joueur-là. Donc, le patron, là, c'est le FC Nantes.
Le patron, FC Nantes, selon Alison. Anna, on l'écoute.
Le président Kita a eu raison d'être intransigeant. Et l'OM n'a pas eu d'autre choix que de céder face au président Kita suite au départ à la dernière minute de Luis Gustavo au
Fenerbahçe. En Turquie, c'est
enfin,
vrai.
Enfin, il est arrivé, c'est un ouf de soulagement pour le peuple marseillais qui recrute un petit soldat avec un très gros volume de jeu, ce qui va faire beaucoup de bien à l'OM.
Ouais, on l'espère en tout cas, les Olympiens, leurs supporters, c'est bien ça, Simon. La question, Kita, l'homme de fer.
Ouais, alors ça, Kita, l'homme de fer, en effet, il a fait ce qu'il voulait, avec Zubizarreta, voilà, exactement. Mais enfin, c'est Kita, en même temps, il fait un peu, parfois il fait n'importe quoi, donc, mais il fait ce qu'il veut, mais parfois il fait n'importe quoi. Après, je trouve que tu vas un peu vite en disant que l'OM ne fera pas de plus-value avec Rongier. C'est un jeune joueur, plein de talent. Alors, on ne sait pas s'il aura, Zubizarreta dit qu'il aura une carrière à la Deschamps, qu'il lui, il voit une carrière à la Deschamps.
C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein.
C'est tout ce qu'on lui souhaite. Je ne sais pas s'il arrivera à passer ce cap international. C'est là le hic pour l'OM, hein. C'est là la prise de risque parce qu'il est censé remplacer un Luis Gustavo qui a une expérience de niveau énorme, c'est ça qui est compliqué. Après, Rongier, il est, voilà, on le redit, il est pétri de talent, il peut faire une grosse saison ou deux ou trois à l'OM et partir et faire donner une plus-value à l'OM parce que on sait aujourd'hui que les montants des transferts s'envolent. Hein. Maintenant, il y a des joueurs qui partent très facilement à plus de 20 millions d'euros.
C'est vrai.
Alors, en Angleterre, en Chine, et je ne sais quel autre championnat qui est prêt à allonger les billets. Donc, oui, Rongier peut apporter de l'argent à l'OM. Après, c'est vrai que oui, Kita, il a fait ce qu'il voulait avec
la direction
olympienne.
Il les a menés à la baguette. Il a fait vraiment ce qu'il voulait.
Ça reste assez incroyable, quand même. À ce niveau-là, l'OM perd du terrain.
Mais on
ce club, on se comprend
voilà,
plus.
Il y a des accusations d'amateurisme. Alors après, je ne sais
avec
pas.
Son président.
A l'air d'être quelqu'un de compétent, compétent pour le football. Je ne sais pas, mais
pas
a priori,
tout à fait.
C'est quelqu'un de compétent à la base.
Ouais,
on se demande qui tire les ficelles, ouais. Qui tire les rênes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu de la communication entre Zubizarreta et Héro
et
Villas-Boas?
On a l'impression que non.
Également, est-ce que et puis aussi du côté de Nantes, est-ce qu'il y a eu de la communication avec Gourcuff? Est-ce que Gourcuff a eu son mot à dire? Parce que ils perdront Rongier, Nantes. Mais du coup, ils n'ont pas eu le temps de se retourner pour... j'ai plus le nom, ils voulaient recruter un jeune milieu belge à Anderlecht. Ils n'ont pas pu le faire. Et d'ailleurs, ça a entraîné des pénalités sur la transaction. Hein. Il a fait une rallonge.
2 millions.
Ouais, je crois quelque chose comme ça. Comme pénalité parce qu'ils n'ont pas su se retourner. Gourcuff, lui, en attendant, il perd le capitaine de son club. Il perd le principal milieu de terrain. Lui aussi, il faut qu'il se retourne. C'est un peu compliqué pour lui, quand même.
Un peu compliqué, en tout cas. Des auditeurs nous font part de leur désaccord avec la direction marseillaise, notamment avec des tweets qui circulent sur la twittosphère et le hashtag Tamsport, notamment avec Achille qui nous écoute ce soir, sans oublier Noura ou encore Soso, mais aussi Raphaël qui, pour lui, l'OM ne sait pas écouter son propre public. Va savoir, en tout cas. Vivien, on va voir Vivien justement, il n'a pas le temps mais on te prend de court Vivien. Qu'en penses-tu, Valentin Rongier, le mercato estival de l'Olympique de Marseille, pour toi, ça veut dire quoi?
J'étais d'accord avec tous mes collègues, on va dire.
Ouais.
Non mais le président Kita était très fort, mais peut-être ça montre peut-être un Marseille qui se sentait peut-être pas sous pression, mais qui avait peut-être besoin de faire un coup comme ça à tout prix, quitte à un peu se plier aux exigences de Nantes, comme vous l'avez tous dit. Après, peut-être qu'il a beaucoup de qualités. Est-ce qu'il pourra s'adapter au contexte marseillais? C'est ça.
Ça, c'est autre chose.
Ouais. C'est la question. C'est le problème, en fait.
C'est toujours la même chose. Rien ne se fait dans la facilité à l'OM.
Carrément.
C'est ça. Alors, moi, je comprends le recrutement d'urgence de Marseille. Hein. Ils étaient en déficit de milieu de terrain. Mais qu'un club comme l'Olympique de Marseille plie de cette manière, c'est quand même un peu intriguant, non?
Après, c'est le FC Nantes, quand même, en face.
Oui,
ça reste un club historique.
Oui,
français,
bien sûr. Mais je veux dire que. Aussi, c'est un bon argument.
On parle d'un sacré animal de
c'est
business.
Ça.
Ah,
c'est,
quand même, Simon. Anna, on l'écoute.
Achille vous répond à mon collègue.
Ouais.
Il Simon. Vous dit l'amateurisme est normal quand vous savez que le président vient du monde hippique. Il parle d'un directeur sportif très très absent.
Ouais. C'est
normal.
C'est pas faux ça. Vivien, tu en penses quoi? Justement, à Marseille, on dit que le public n'est pas écouté. Et même que certains joueurs ne comprennent pas les choix réels de la direction
sportive,
marseillaise.
Oui, depuis quelques années, c'est ce fameux OM Champions Project.
Si on le dit, Alisson aussi.
C'est ça, on ne sait pas exactement où Marseille
Champions Project, on l'a pas vu encore. Hein.
Non, c'est sûr. Mais
ça la ramasse. Hein.
Mais passer cette blague, oui, c'est clairement, on ne sait pas exactement. C'est un petit peu des coups comme ça, un petit peu sensationnel. Peut-être que la direction veut calmer le public, mais le problème...
Ouais. Gustavo est parti.
C'est Rongier qui va calmer le public.
Et justement, il est parti pour récupérer Rongier en échange au prix fort pour un joueur dont le potentiel doit être mis en perspective par rapport à l'international brésilien, Simon.
Ah, c'est là que c'est compliqué.
C'est
Gustavo,
très, très
c'est
dur.
C'est énormément de sélections. C'est de la Ligue des Champions avec Wolfsburg. Il part à Fenerbahçe, qui est un club européen. Quand
avec Adil Rami.
Quel âge, Luis Gustavo? Je crois qu'il a seulement la trentaine, 31, quelque chose comme ça. Il a quand même plusieurs années encore devant lui. C'est dommage de l'avoir perdu. C'est quand même, c'est un joueur de très grande envergure. Alors après, encore une fois, Valentin Rongier, ça reste un bon coup et peut-être qu'il arrivera à combler ce gap d'expérience, ce déficit d'expérience qu'il a par rapport à Luis Gustavo. Mais c'est un pari risqué. Après, ça ressemble fortement à une recrue troisième place project plutôt.
Il peut nous surprendre. Rongier, il a un avenir prometteur et vu que
bien
la
sûr.
Barre est très très haute, je pense qu'il va tout donner.
Ouais, Rongier peut-il être considéré comme le chaînon manquant de ce mercato estival marseillais? Alisson,
pourquoi pas
joueur. Pourquoi pas. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup de recrues
de recrues
et ça pourrait le faire peut-être.
Je pense que c'est un pari d'avenir. Je pense que pour l'instant, ça sera un petit joker ou un joueur qu'on sortira je sais pas comment.
Ah, tu le vois pas titulaire, toi?
Là, comme ça, si avec toutes les absences, si je le vois titulaire, là, il y a pas trop le choix.
Surtout au poste de milieu défensif.
C'est ça. Et que Villas-Boas change un peu son schéma de jeu. Mais je pense que c'est plutôt un pari d'avenir et il pourra faire l'affaire.
Mais bien, Villas-Boas, le Portugais, qui arrive dans la cité phocéenne, justement, est-ce que tu es sous le charme de cet entraîneur, enfin technicien?
Pour l'instant, je pense qu'on est tous un peu mitigés.
Il essaye de faire avec ce qu'il a.
C'est ça.
C'est assez compliqué.
En fait, c'est ça. L'autre problème, c'est
moins Simon, il a compris.
Dans quel contexte il travaille?
Il y avait Claude. Et il en est la preuve en plein de conférences de presse. Et Claude, il allait lui lancer justement comment vous pourrez faire. Et le gars, il répondait, mais moi, je ne peux rien faire. Je fais avec ce que j'ai. Carrément, je n'ai pas d'argent. Il a dit ouvertement. Mais ça, c'est fou quand même.
Quand on a moins d'argent, ben faut travailler plus intelligemment, faut faire des bons coups, et c'est ce que l'OM, j'espère pour eux que ce sera un bon coup.
Moi, j'aime à regarder ce qu'il a fait avec le Zénith. Le Zénith, il a plus d'argent en principe que l'OM, quoique Macourt est censé apporter pas mal d'argent. Mais le Zénith, avec ses moyens limités par rapport à certains cadors européens, a réussi à faire, avec Villas-Boas, des places de quart de finaliste de Ligue des Champions. C'est largement correct, franchement. Et gagner le championnat de Russie, c'est pas toujours facile. Donc, laissons-le travailler. Faut attendre un petit peu. On est en début de saison. Il y a eu le mercato. C'est un club qui avait un effectif un peu compliqué à gérer cet été. Apparemment, il garde Thauvin. On va voir. Laissons-le travailler, l'ami Villas-Boas.
Il n'y a pas beaucoup de recrues à l'OM. Cependant, c'est très qualitatif. Le coach est la véritable recrue de Marseille. Et il va réussir à tirer le maximum de son équipe avec un budget très limité.
On l'espère, Alisson. Concernant cela, avec ce recrutement, on espère qu'il tirera son effectif vers le haut.
Tout à fait. Il n'a pas d'autre choix.
En plus, on a que la Ligue 1 Conforama à jouer du côté de Marseille.
Oui. Troisième place, Project.
Ouais,
c'est ça.
Pourquoi pas?
Coupe de France, Project.
Ouais.
Coupe de la Ligue, Project.
Il est dubitatif, je crois.
Peut-être Coupe de la Ligue, Project.
Mais viens.
Ah non, mais il faut lui laisser du temps, en tout cas. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose, une révolution. Marseille n'est pas candidat pour le titre. Donc, clairement, faut maintenant qu'il travaille. Qu'ils travaillent vraiment, qu'ils aient une vraie ligne, peut-être sur 2-3 ans, pour se rapprocher un peu plus du podium.
Parce qu'on a besoin de l'OM en championnat.
Parce qu'on sait que Paris et Lyon commencent à se détacher. Maintenant, c'est se battre pour la 3e, 4e place cette année.
Il faudra faire plaisir à Alexandre Semant et aussi à Olivier Gé, concernant l'Olympique de Marseille. Marseille doit être présent sur ce championnat qu'est la Ligue 1 Conforama. Et elle est d'accord avec moi, Alisson. On poursuit cette émission avec notre cas. Ah là, c'est assez compliqué. C'est Atem Ben Arfa. Time Sport. On aime tous Atem, hein. Bon, le premier, hein. Je m'en souviens.
Le cas Atem.
Explique pourquoi il ne s'est engagé nulle part. Je cite, aucun challenge m'a été proposé, ne m'a excité, a-t-il indiqué. C'est comme avec une femme. Si elle ne t'excite pas, laisse tomber mon frère. Je cite. Ben Arfa était notamment annoncé dans le viseur de la fameuse Sampdoria de Gênes et du Genoa, Simon.
Et la Fiorentina aussi.
Et la Fiorentina, ouais, pourquoi pas. Ça aurait fait des...
Ils ont essayé de doubler la Samp au dernier moment.
Ça aurait fait des belles choses avec Franck Ribéry. Constat surréaliste et dérive d'une carrière qui poursuit sa lente descente aux enfers, ou choix plein de bon sens d'un joueur déterminé à ne pas évoluer, messieurs, dames, au niveau qu'il considère ne pas être le sien. Oui, Anna, Simon.
Il a démontré qu'il privilégiait le projet sportif, la preuve et avec Ness et Rennes. Et puis, qui sommes-nous pour juger ses décisions? Franchement, c'est un millionnaire, il n'a pas la pression financière comme monsieur, madame, tout le monde.
Ouais, mais c'est un sportif avant tout. Hein.
Mais si,
c'est ce qui est dommage,
sportif talentueux. Peut-être qu'il a eu énormément de propositions.
C'est vrai.
Peut-être que la proposition qui l'attend, justement, ne figure pas dans cette liste-là. D'accord. Peut-être qu'il a d'autres projets, peut-être que... je pense qu'on doit lui laisser un petit peu de temps et qu'il est libre de ses choix s'il ne veut pas s'engager en ce moment.
En fait, on aimerait trop voir Atem Ben Arfa.
Moi, j'aimerais bien connaître les projets de Ben Arfa quand même.
Ouais.
Son âge avance. Alors, c'est
pas
indéniable.
Pas mal de personnes aimeraient.
C'est un joueur talentueux. Excusez-moi le terme, c'est un talent déchu, Ben Arfa. C'est l'un des top joueurs de sa génération.
Absolument.
Mais malheureusement, il n'a pas bonifié son talent. Ben Arfa, aujourd'hui, il a 32 ans. Il était avec le PSG. Il s'est pas réengagé avec Rennes. Qu'est-ce qu'il attend?
Mais moi, j'aime ce côté. Alors, on évacue tout de suite, parce qu'il faut quand même en parler, la métaphore complètement pourrie, très maladroite.
Ouais. On l'a connu plus beaucoup, que maladroite.
Beaucoup plus inspiré, le père Athème.
Ah oui, c'est
bon,
clair.
Bon, ça, c'est pour le côté people, on va dire. Mais voilà, faut le dire quand même, c'est très maladroit. Athème, c'était pas très inspiré. Après, pour le côté sportif.
Alors,
dans un monde du football actuel où les joueurs n'ont pas toujours leur mot à dire, voire très rarement, où ils servent de monnaie d'échange, comme du bétail presque. On l'a vu cet été avec le feuilleton Neymar et Barça qui mettaient Rakitic, Todibo dedans sans leur en parler. Enfin voilà, c'est quand même catastrophique humainement comme façon de faire. Moi, j'aime ce côté quand même un petit peu, ce côté homme libre. Voilà, pour moi, son projet à Athènes, c'est d'être un joueur libre. Donc, moi, je peux le comprendre. Voilà.
Il joue pour le jeu, mais ça va pas dans le sens.
Plaisir.
Oui, mais
qui dit qu'il va pas à un moment trouver ce qui l'excite, trouver ce qui l'excite et un plat. Voilà, on va plutôt une métaphore plus culinaire.
C'est un peu de meilleur goût.
On va rester dans le registre culinaire.
Voilà, un plat qui l'exciterait un petit peu plus, qui lui donnerait, voilà, qui le ferait saliver. Et là, il partirait pour le jeu. Il se barre de Rennes quand même en disant que c'est le jeu qui ne lui plaît pas.
Ouais.
Il part en disant à Rennes, j'ai pas évolué pour jouer au football. J'ai évolué pour gagner des matchs, etc. C'est une compétition. C'est un choix sportif aussi, puisque Rennes a quand même gagné une Coupe de France. Mais voilà, lui, il a envie de jouer au football et il a envie de partir à un endroit où il voulait jouer au football. Alors avec la Samp, par contre, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'il aurait eu un entraîneur au studio Di Francesco qui est quand même a priori.
Merci Simon, merci les consultantes et aussi Vivien. On revient de suite pour encore parler d'Atem Ben Arfa et terminer, prêt aussi enchaîner sur la poursuite du programme de cette émission qui est Time Sport. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, les nouvelles horaires de Time Sport en compagnie de nos deux réalisateurs. Je vous rappelle Hugo et aussi Yanis. Voilà. Les deux virulents connaisseurs de football. Eh oui, pas que, il y a tout le monde qui est connaisseur de sport dans ce studio. Je suis en compagnie, je rappelle aussi, de Anna Guézard-Boicaz, Alison Nkonkou, Vivien Boyebonga et Simon Balachef. On revient avec toi, Vivien, concernant Athème Ben Arfa. Oui, cas d'Athème.
Athème, en fait,
on aurait voulu le voir sur les terrains.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup, on a un petit peu du mal à être lucide, parce qu'on sait tout ce qu'il est capable de faire. Mais en fait, moi, je trouve que même sur la forme, je trouve pas malin parce que ça stories Instagram en plus de paraître du côté sexiste, etc. Moi, je préférais que le mec il nous dise, ben voilà, moi par exemple, je rêvais d'un club de qui joue la C1 ou par exemple qui nous précise en fait quel est son projet en fait. Parce que là, du coup, ça va encore tomber dans le cliché. Ben Arfa, il sait pas ce qu'il veut. Puis la génération 87, elle est perdue, etc. Enfin, j'ai l'impression un peu ce qui va ressortir dans les médias, alors que peut-être que je pense qu'il a encore du ballon. Il a montré l'an dernier. J'ai l'impression quand même qu'il a encore envie de côtoyer le haut niveau. Que les matchs d'Europa League, la campagne de Rennes l'a montré quand même l'an dernier. Donc, il veut des choses, mais voilà, c'est faire des blagues comme ça, c'est drôle, c'est sympa entre guillemets.
Et peut-être c'est une stratégie qu'il essaye de se démarquer des autres joueurs.
Ça peut, mais
on peut pas savoir
par les temps qui courent.
Mais est-ce que ça va l'aider? Il peut le faire, mais est-ce que
tout le monde sait que les joueurs de foot ne sont pas les meilleurs.
Malheureusement pour lui, ça conforte cette idée. Et surtout par les temps qui courent, où avec les campagnes MeToo, etc., on est tous au courant, comparer le football aux femmes, une femme excitante, etc., c'est absolument déplacé. C'est encore ça, une fois.
Avec ce qu'il y a, t'as envie de te prendre la tête dans les mains et te dire mais arrêtez, les gars.
Oui, lâche Instagram.
Je pense pas qu'il ait souhaité offusquer les femmes.
Bien sûr.
Parce que s'il avait été conscient de ce qu'il écrivait, je pense pas du tout qu'il aurait écrit, parce que ce n'est pas du tout en sa faveur. La preuve, vous représentez la catégorie de personnes qui se révoltent, entre guillemets. Mais n'empêche que on est habitué à écouter les bêtises des joueurs de foot. Leur place, c'est pas devant des milliers de personnes à donner des grands discours. Ils n'ont pas d'accord. Généralement, lorsqu'ils communiquent bien, c'est parce qu'ils payent très très cher des professionnels de la communication qui s'expriment à leur place.
Aussi.
Il a dû faire une erreur. Il me semble que on peut la lui passer. Ouais. Après, après le pourquoi il ne rejoigne pas ou il n'intègre pas un club, ça reste son choix. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que parce qu'il veut faire monter son prix? On ne peut pas savoir. Ou peut-être qu'il est malade et que les médias ne le savent pas pour des raisons personnelles.
Hein, elle le défend. Si ça se trouve. Mais bon, elle a raison. Il y en a pas mal qui sont supporters de ce joueur.
On lui laisse un petit peu le temps et on saura. De toute façon, la vérité absolue, c'est que lui qui la détient. Nous, on va faire que des suppositions.
Beaucoup d'amoureux d'Atem Ben Arfa, notamment auprès des auditeurs de Beurre FM. Quelles sont les solutions encore envisageables pour Atem Ben Arfa?
Partir à Boca Juniors.
Boca Juniors à 32 ans, reste libre de signer dans un club quelconque.
Et là, il va s'éclater.
Ah oui, pour toi. Allez,
oui, il faut qu'il fasse des projets comme ça. Pour moi, il a 32 ans, c'est fini, il est top
4,
je pense qu'il le sait. Alors qu'il avait le niveau pour, mais c'est fini, là, il faut qu'il s'éclate.
Région sud-américaine.
Voilà, il faut qu'il parte en MLS si ça éclate. En Amérique du Sud, pourquoi pas.
Le club de Beckham arrive à Miami, il a qu'à aller. Peut-être c'est ça le type de projet qu'il
a. L'Amérique latine, c'est fait pour
s'éclater avec David à Miami, c'est ça. Voilà, vous n'avez pas compris. Hein.
Ou un petit club en Espagne. Je sais, apparemment, les Ganes, l'Espagnol étaient dessus. Pourquoi pas? Voilà, faut qu'il. Ça peut être l'idole d'un club de moyenne envergure maintenant.
C'est-à-dire qu'il devait être l'idole du Barcelone.
S'éclater.
Ouais, c'est ça. Talent gâché, génération 87 gâché.
Génération 87 gâché.
Ouais, c'est ça. Ouais. Dommage. Menez, ou encore Atem.
Nasri.
Ouais, encore. Amédéla, oui.
Mais
c'est un petit clin d'œil à Bruno, ça.
En fait, Ben Arfa, c'était vraiment le top du top.
Génération 87 gâchée, Benzema, ça va.
Oui.
Il est présent. Parce qu'il n'est pas champion du monde. Même malgré ça, c'est un gâché.
Il se rattrape à Madrid, c'est pas grave.
Oui, bon. Pas faux.
Non, mais c'est un vrai gâchis. Mais pour Atem, oui, maintenant, on peut que lui, c'était le meilleur. Mais effectivement. Après, le problème, c'est qui le conseille aussi, qui l'encadre, c'est ça aussi.
Ah, visiblement.
Visiblement, pas grand monde.
S'il n'y a qu'un entourage qui lui dit justement que des choses gentilles, mais qui ne le pousse pas, peut-être aller dans un club de Liga, il pourrait très bien, un club de milieu de tableau, même faire comme ça quelques matchs, montrer un peu ce qu'il sait faire, même si, ouais, c'est peut-être ça. La Liga, je trouve, c'est un championnat qui serait vraiment bien pour lui.
Ouais. Il a aussi besoin d'un club qui joue pour lui. C'est un mec qui a besoin d'avoir une équipe qui joue pour lui et que le jeu soit articulé autour de lui.
Toi, tu le penses,
À Rennes, avec des mecs comme Grenier, par exemple, qui était titulaire et qui prenait beaucoup de place dans la construction du jeu, le jeu n'était pas forcément orienté sur et par Atem Ben Arfa. Je pense que c'est peut-être aussi ça qui lui a posé problème. Et peut-être qu'il attend un club où il est certain qu'il aura les clés du camion.
On termine avec toi, Alison.
Je suis tout à fait d'accord avec Simon. Et ce que je disais tout à l'heure, moi j'en suis convaincue, hein, mais ça reste mon avis personnel, qu'au fond de lui, Ben Arfa, il a cette petite flamme qui espère qu'un club, au prochain mercato, qu'un club qui joue peut-être l'Europa League vienne à lui et lui dise: écoute, Atem, on a besoin de toi et on te veut et qu'il y aille. Voilà peut-être un projet.
Par exemple, le Stade Rennais.
On a des réactions qui peuvent et qui arrivent sur le hashtag Tam Sport Media, sur la twittosphère, et notamment Fabrice, le supporter number one marseillais, qui nous dit que Benedetto va tout écraser cette saison en Ligue 1 Conforama.
Et mon équipe MPG d'accord. Est tout à fait d'accord avec lui aussi.
Alors on va passer là aussi au football de renommée mondiale.
Tam Sport, la victoire.
Oui, une grosse victoire quand on avait annoncé le mondial se déroulant au Qatar en 2022. La FIFA a dévoilé justement hier dans la journée, le logo officiel de cette phase finale de Coupe du Monde 2022 qui se disputera donc au Qatar. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, messieurs, dames, malgré les divers doutes émis au sujet de son organisation. Cette Coupe du Monde 2022 avance à son rythme. Comment visualisez-vous cette future grande messe du sport numéro 1, Simon, Vivien,
comme toutes les
Anna, vas-y, Vivien. Allison.
Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a du mal à visualiser en termes de conditions météo.
En novembre, en décembre, en janvier.
C'est ça,
novembre,
même fêter une victoire en décembre, même pour le grand public, ça paraît un peu surprenant, en plus des championnats. Mais j'ai l'impression que ça me rappelle un petit peu les JO de Pékin 2008. Je fais, pourquoi cet aparté en foot? Ouais, à l'époque, je sais pas si vous venez, tout le monde avait parlé en disant que c'était peut-être pas le bon moment, est-ce qu'il y a la démocratie, etc. Puis finalement, ça s'était pas si mal passé que ça. Donc,
mais tu...
là, les conditions sont catastrophiques parce que ça va peut-être deux saisons, même pour les joueurs, s'adapter, ça va mettre beaucoup de temps physiquement.
Tu fais le parallèle avec les JO de Pékin, mais on peut faire le parallèle avec la Coupe du Monde en Russie, où on sait que Poutine a fait des pressions, et on sait que la Russie, elle est pas... Elle se débrouille en termes d'exactions, les Ukrainiens le savent, les Géorgiens le savent, avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud, où les townships à Soweto et dans toutes les grosses villes avaient été nettoyées, on met des gros guillemets, au Brésil, avec la pacification des favelas. Toutes les Coupes du Monde sont toujours entourées, malheureusement, de cette espèce de gloubi-boulga assez ignoble. La Coupe du Monde au Qatar n'y fait pas exception. Et sauf que, comme d'habitude, on aura quelques reportages sur le sujet, sur la part d'ombre de cette Coupe du Monde au moment d'arriver vers la grand-messe. Et puis la grand-messe arrivera, et comme on est des fondus de football, c'est terrible, et on va regarder et on va s'éclater, et voilà. Après, c'est vrai
ça tardera là-dessus.
Le seul truc qui peut en faire une coupe.
Alors c'est quoi, Simon,
part,
pour toi?
Oui, c'est si c'est décalé en hiver.
Là, décalé. Ouais, peut-être ça fera du bien à Alisson ou à Anna. On prendra nos vacances à ce moment-là.
Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est jouable en été?
Non, c'est impossible.
C'est impossible.
Au Qatar, plus de 50 degrés, je pense que même avec ces stats climatiques.
Je demande. Là,
alors, peut-être Anna, elle est déjà allée au Qatar. On peut-être elle connaît. Ouais. Alors, Anna, la réaction.
Au fait, à mon avis, le Qatar a vraiment besoin de cette Coupe du Monde pour redorer son image, redorer son blason. À savoir qu'actuellement, l'actualité économique au Qatar, ça peut vous paraître un peu.
Et géopolitique.
Bizarre. Et géopolitique.
Ouais.
N'est pas exceptionnelle. Suite à l'embargo qui a été fait contre elle par les autres pays du Golfe, suite à ces décisions politiques ou
bien sûr.
Voilà. Et puis donc je disais sa situation économique n'est pas au top. L'immobilier est en baisse, le prix de l'immobilier, les gens perdent leur boulot là-bas et tout. Et puis, ils ont vraiment besoin de cette Coupe du Monde pour redorer leur image, pour remonter, pour attirer le plus de monde, pour refaire monter l'économie. Et je pense qu'ils vont mettre le paquet. Vous savez, au pays de Golfe, en même temps, ils ont les moyens, alors, ils savent où investir, quoi.
Ouais.
Je pense que ça sera une Coupe du Monde exceptionnelle parce qu'ils sont obligés de mettre le paquet pour... voilà, pour briller de nouveau.
Cas, et ils sont, les stades, si, les structures.
Logiquement, comme a dit la demoiselle
Alisson,
logiquement, cette Coupe du Monde aura lieu, en principe, ils devraient la programmer au moins en hiver chez eux. Mais même si elle sera programmée en été, ils sont capables de nous mettre des climatiseurs dans des stades tellement. Au fait, vu qu'ils sont habitués. Voilà, vu qu'ils sont. Ils sont habitués à survivre dans la chaleur. Donc, soyez sûrs qu'ils vont trouver des solutions pour pouvoir
L'été, ça va.
Exactement.
Ça serait assez incroyable quand même. C'est pas du désert, c'est assez chaud.
Ce serait paradoxal de faire une compétition sportive là où même leur compétition, le championnat qatari, etc., est arrêté.
Ouais, est terminé.
À cause de la chaleur.
C'est ça.
C'est paradoxal.
Ouais. Ouais, assez fou quand même. Sur l'organisation. Vivien, Alisson.
Moi, je pense qu'eux,
ils sont
ils sont
champions. De nos jours, l'argent peut tout faire. Et eux, ils ont l'argent.
Malheureusement.
Quand ils veulent. Ouais. Et puis, tout ce qu'ils savent, même s'ils ne savent pas forcément, même si c'est pas des grands penseurs ou ils sont pas des grands créatifs, ils savent quelque chose, c'est qu'ils délèguent. Ils ramènent les pros de partout dans le monde et ils les payent. Et le job est fait.
Ça, elle aura lieu, c'est sûr. Mais...
Oui, elle aura lieu, mais après, je pense que cette Coupe du Monde,
Alisson,
elle fait vraiment peur plus que les autres. C'est le Qatar, c'est un pays du Golfe. Les gens ne connaissent pas bien. Le Qatar n'est pas réputé forcément à première vue pour le sport.
Mais on se doit justement. Le sport est planétaire aussi,
Alisson. Exactement.
C'est comme un peu les Jeux Olympiques. On doit aller sur tous les continents.
C'est pour ça que les gens ont pas mal d'appréhension et d'a priori. Mais je pense que c'est une Coupe du Monde qui se déroulera très bien, qu'on trouvera des solutions, qu'on adoptera le calendrier dans tous les championnats et pour le championnat européen. Et ça se passera très bien. Ils trouveront les infrastructures nécessaires. Et comme dans toutes les Coupes du Monde précédentes, il y a toujours eu des polémique. Et toutes les Coupes du Monde se sont toujours déroulées et se sont toujours très bien déroulées. Et finalement, on était tous satisfaits en regardant ce qu'on disait au début et la finalité. Et ça s'est toujours bien passé.
En fermant les yeux sur pas mal de choses.
Les supporters aussi vont y aller. Ils vont assister à une très belle Coupe du Monde. Ils vont faire leur shopping. Ils vont bien s'amuser. Ils vont adorer le pays.
Mais par contre, en décembre ou en janvier, je suis désolé, mais tu peux pas faire de barbecue pour un quart de finale Argentine, je sais pas.
Et ça m'énerve.
Il pense à son barbecue, Anna, tu vois. Voilà, là.
Catastrophique. Des billets, moi j'ai peur que ce soit des prix complètement exorbitants.
Ah ben moi je crois pas. Moi je crois pas justement sur les prix des billets d'avion, tout ce qui va avec. Je crois qu'on aura vraiment des prix assez attractifs.
Ouais, Qatar Airways va faire une des grandes.
Ouais, mais je suis sérieux, Alison. Ouais, vraiment. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, avec nos deux consultantes, Alison et Anna, sans oublier Simon et Vivien. On parlera, on reviendra sur justement la ministre des Sports et aussi sur ses rencontres avec les supporters en Ligue 1 Conforama. Sans oublier l'équipe de France. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Eh oui, pas que. Il n'y a pas que Bilal Nenman sur le plateau. Il y a aussi les ravissantes Anna Guézard, Boakaz et aussi Alison Nkunku. Sans oublier Vivien Boibanga et Simon Balachef. Le petit clin d'œil à Mamadou Lamine Mané, notre rédacteur en chef, Jouba Houchen, coordinateur de cette émission. La graphiste Sokaina, sans oublier les CM, il y en a beaucoup. Il y a Vanik, il y a aussi Farid et sans oublier Yasmine qui est encore en vacances, Yasmine. Voilà, le petit clin d'œil pour toute l'équipe. Nous, on a parlé justement d'Atem Ben Arfa, on a parlé aussi de Valentin Rongier, on a parlé de la fameuse FIFA. Là, on va s'attarder, allez, pourquoi pas, sur la ministre des Sports qui a rencontré mardi Laurent Nunez, le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Intérieur.
Time Sport. Le duel.
Oui, ça c'est un fameux duel. Mais avant ce fameux duel, l'équipe de France de basketball qui se qualifie et il sourit pour le deuxième tour du Mondial en Chine. Vivien, c'est toi le connaisseur de basket.
Oui, un mondial avec un premier match assez compliqué contre l'Allemagne. On avait bien commencé, mais on s'est fait très très peur en fin de match.
On se fait toujours peur.
C'est ça.
On appréhende aussi le mondial au Japon, juste
puis,
à côté.
Un deuxième match avec le rugby. Deuxième match vraiment bien maîtrisé contre la Jordanie qui nous permet de nous qualifier. Mais
quand même.
Pour les auditeurs, je rappelle juste que les États-Unis ont gagné hier que d'un point après prolongation. Donc. C'est un mondial très relevé et on peut vraiment être content d'être à 2-0 avant le dernier match demain contre la République Dominicaine.
Et on donnera toutes les informations sur la fanpage Facebook, sur le site internet de beurrefm.net, sans oublier le compte officiel de cette émission qui est Time Sport sur la tutosphère. La ministre donc des Sports a rencontré hier Laurent Nunez, je le rappelle, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, afin d'avancer sur le chantier des interdictions de déplacement, Anna, de supporters, et là invité à être à l'écoute. Va-t-on enfin vers un peu de dialogue? On le disait hier avec Nassim Bourras, et de sérénité entre l'institution politique, mais aussi les groupes de supporters. Ça fait ravage. Alison, oui, elle est comme ça. Elle est d'accord avec moi, peut-être.
Ah oui, totalement. Ouais. C'est bien que la ministre prenne le problème à bras-le-corps. Je pense qu'il est important de pouvoir installer un climat de communication. C'est la première chose qui puisse tous concorder entre les instances.
Un climat qui a refroidi en France. On le voit qu'en France. C'est ça qui dépasse les supporters.
C'est ce qui est dommage. C'est bien de pouvoir s'organiser, de pouvoir discuter, de pouvoir mettre en place des déplacements de manière correcte, ou alors expliquer lorsqu'il y a des événements comme récemment les Gilets jaunes, le sommet du G7, expliquer aux supporters, venir les voir peut-être en amont, de leur dire écoutez, vous pouvez pas vous déplacer parce que pour telle et telle raison. C'est bien de prendre en tout cas ce problème à bras le corps.
Anna, Simon.
La discussion jaillit, la lumière, c'est
bien. Bien sûr. C'est bien, c'est bien dit, ça.
Voilà. C'est bien de discuter et tout. Par contre, d'être dans une puissance mondiale comme la France et de ne pas pouvoir gérer la sécurité d'un groupe, de supporters, ça nous pousse à poser des questions.
Ouais, on est d'accord.
Parce que, en même temps, la France est un pays de liberté.
Ouais.
Liberté,
fraternité et égalité, c'est vrai.
Absolument. Et là, je trouve que c'est dommage de sceller la liberté des uns et des autres comme ça, même la liberté d'expression, la liberté de je ne sais quoi, la liberté maintenant d'aller pouvoir
De se déplacer ou quoi.
Voilà. Et c'est contraignant, ce genre de décision est contraignant pour les supporters et pour les joueurs aussi, parce qu'on sait très bien à quel point ils sont influencés lorsqu'ils jouent et que ils sont. Et je pense que le football perd un petit peu de sa magie à cause de.
D'accord. Voilà. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai, ça perd un peu sa magie. Ouais, en Allemagne, on voit quand même des divisions 3, des divisions 2 avec des 15 000 personnes en déplacement. En France, pour 500 personnes, on ne sait plus où on est.
Oui, mais les Allemands, ils sont agaçants, c'est l'élève par
Ça va. Ça agace, ça l'agace. Allez, Simon, on y vient. Concernant le sujet après, nos demoiselles.
Bravo.
Non,
mais la démarche de Madame Maraciné à nous est clairement la
ministre.
La discussion, parce qu'en effet, c'est. Le football a besoin des ultras. Les ultras ne sont pas le football, mais le football a besoin des ultras à domicile, comme à l'extérieur, comme dirait Bouga. C'est tout, des gens qui se rappellent ici de Bouga, le rappeur marseillais. Bref. Mais. Oh là là. Ouais, bref. Le football a besoin des ultras, etc. Et a besoin de cette liberté. Le mouvement des ultras partout dans le monde. Sont souvent vecteurs de protestation et symbole de liberté. Alors ça, c'est une chose. Après, et c'est là que la discussion est importante avec les groupes d'ultra, parce que on ne peut pas non plus ignorer que systématiquement, dès qu'on leur laisse cette liberté, il y a des dérapages. C'est systématique.
Ouais.
Tu laisses un déplacement, il y aura des dérapages. Alors en effet, il faut pas stigmatiser, c'est pas tous les ultras, c'est parfois seulement 10 personnes, parfois 20, parfois malheureusement plus.
Ouais, mais c'est pas tous les déplacements, Simon.
Mais énormément de déplacements, tu peux pas l'occulter, tu peux pas l'ignorer.
Peut-être sur un OMPSG, ça va.
Ouais, c'est ça, faudrait prendre plus de mesures, en Angleterre, on y arrive très bien.
Ouais, exactement.
En Hollande,
mais c'est discriminatoire. Attends, en Angleterre, on y arrive parce que
les supporters par exemple les hooligans ils sont très violents.
C'est vrai.
Les stades sont devenus très rigides en Angleterre.
Les prix des places sont envolés.
Si on se lève pendant le match, la sécurité.
Une discrimination sociale dans les stades en Angleterre par le prix qui fait que
je suis tout à fait d'accord. Mais alors où on se place, il faut prendre des mesures, il faut cibler les ultras qui engendrent ces débordements. Mais comment
ça, je suis d'accord.
Il faut prendre plus de mesures.
C'est là que
dans
la discussion avec les groupes d'ultras peut être très très importante.
En France, il n'y a pas assez de discussion entre les ultras, entre les instances de football, le gouvernement, entre la police. Personne ne communique, mais tout le monde fait de l'oppression et réprimande l'autre.
Exactement. C'est ce qui se passe en France. Moi, je pense que ce genre de décision est ridicule en même temps, parce que sur le terrain, concrètement, si vous voulez vous déplacer d'une façon anonyme, sans forcément montrer. Quelle équipe
on va supporter
et qu'on veut faire causer des débordements et être violent, on peut réussir.
C'est ce qui s'est passé à l'Euro.
C'est pas ce genre de décision qui va forcément les empêcher d'être violents ou de.
En tout cas, il faut que ça change. Ça, c'est sûr.
C'est terrible. Il y a aussi ce problème de mentalité au sein de la culture ultra, qui encore une fois n'est pas que basée sur la violence, loin de là.
Ouais.
Heureusement, on l'entend encore. Ça fait partie de notre culture. Ça fait partie du folklore. Ouais, folklore quand même, les gars. C'est pas se taper sur la gueule.
On est en retard.
C'est pas cool. Mais on est en retard. Sur on n'est le pas les seuls.
On n'est pas les seuls, mais quand même, elle a pas tort, Alison, ni Anna. On est un peu quand même à la traîne.
Donc faudrait. Peut-être
c'est évoluer,
je pense que la démarche est bonne. C'est sûrement avec la discussion qu'on va y arriver, mais en effet, il y a forcément une solution pour ça.
Et on fait savoir aux éditeurs de Beurre FM.
Mais en tout cas, moi, je suis vraiment pas pour l'exemple anglais, parce que l'Angleterre a perdu le côté populaire de ses stades.
Un système de sanctions pour les clubs, si par exemple le club visiteur est, je sais pas,
il est toujours vide. En ce moment, c'est toujours vide.
Ah oui,
soit au Parc des Princes, ça soit du côté de l'Orange Vélodrome, ça soit dans nombre de stades.
C'est triste quand même.
Ça, c'est triste. On espère évoluer et changer dans cela.
Bah oui, parce que la magie du football, c'est quand
comme le disait.
L'ambiance sur les gradins.
Et on l'a plus.
Ouais. L'ambiance, mais pas la violence.
La dernière partie de cette émission, c'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Une pépite, Matteo Guendouzi, le gunner s'appelait à la place de Paul Pogba, le mancunien, forfait. Comment interprétez-vous ce choix du sélectionneur, d'habitude peu enclin à des excès de jeunisme, si je peux me permettre? Ça fait sursauter Simon, Vivien, Anna, on vous écoute.
Mbappé,
Alison.
C'est pas un excès de jeunisme.
Non, mais lui... Oh,
Pogba, 19 ans, première sélection.
Oui, mais
Raphaël Varane.
Mais encore.
Il était au Real Madrid.
Bah, c'est juste pour souligner. Guendouzi a fait une saison pleine à Arsenal.
Il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a pas d'excès de génie.
Ah, c'est mérité. Pour ça, c'est mérité.
Et puis, il a fait tout. Qu'en pensez-vous, justement, jusqu'aux espoirs. C'est quelqu'un, justement, qu'on voit depuis quelques années dans les équipes de
foot. Ah, mais magnifique joueur.
C'est ça.
Il a fait une grosse saison l'année dernière. Il fait un gros début de saison contre Tottenham. Le week-end dernier, il a été élu homme de match. Il semble avoir les épaules pour.
Avant d'enchaîner sur le joueur, mais le choix du sélectionneur, Alisson Anna.
C'est un choix logique, c'est tout à fait normal parce que c'est un jeune qui a forte marge de progression. Il est doué, il a un avenir prometteur. De passer de Lorient en Ligue 2 à Arsenal, ce n'est pas rien. Et dans sa progression, il est important qu'il côtoie l'équipe de France et qu'il joue dans la cour des grands.
Ouais, pas mal. On verra bien, justement, dans cette cour des grands.
Il n'y a rien de plus logique dans la façon de faire de Deschamps.
Ouais.
Il ne faut pas non plus s'enflammer. Parce qu'il a été appelé en remplacement de Pogba. Il n'est pas encore titulaire, indiscutable, etc.
Le
vent tourne vite. Mais pour le moment, en l'état des choses, il est remplaçant d'un membre des sélectionnés qui est forfait. Et en plus, on le sait, Deschamps, lui, avant d'appeler quelqu'un pour la tactique, pour le sportif, vraiment le terrain, il appelle quelqu'un pour le groupe.
Ouais, totalement.
Donc Deschamps, il y a une chose qu'il va regarder en premier, avant même de savoir s'il va réussir son match, s'il rentre, réussir son match, s'il est titulaire, ça va être de voir si le mec, il se cale bien avec le groupe. Et ça, c'est très important. Et il me semble qu'il y a un autre pensionnaire d'Arsenal qui le sait très bien, que la notion de groupe est importante pour Didier Deschamps. Monsieur Lacazette doit
savoir
quelque chose.
Bah effectivement, là, on a des matchs importants de qualification. Donc, effectivement, il a pris pour avis de groupe et peut-être... Là, on ne s'attend pas à ce qu'il ait un rôle dans ces matchs-là, mais on ne sait jamais, c'est ça.
Moi, je pense qu'au contraire, la sélection va lui donner beaucoup de confiance.
Non, je veux dire qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'il soit aligné dans le 11 de départ samedi soir, mais après, on ne sait jamais.
Il faut lui laisser le temps.
On ne sait jamais, on doit lui laisser le temps, il va rentrer en cours de jeu, il va se familiariser avec le haut niveau, le groupe, etc.
Parce que le niveau est là.
Et c'est un joueur, surtout, pour revenir sur ce que Simon disait, il a les compétences et c'est un joueur qui va parfaitement s'acclimater avec le groupe de l'équipe de France.
Et qui va progresser dans
totalement. C'est un joueur bosseur, c'est pas un joueur qu'on entend beaucoup, c'est pas un joueur qui, hors du terrain pour l'instant, malgré son jeune âge, mais bon, qui fait des éclats. On le voit à chaque fois sur le terrain, on le voit dans son jeu. Il est titulaire à Arsenal aujourd'hui. Il fait un super début de saison. C'est le joueur qui a fait le plus d'interceptions et le plus de passes. Il a été élu, comme je disais tout à l'heure, homme du match face à Tottenham la semaine dernière. Enfin, c'est un joueur qui je pense, a de l'avenir et plus que de l'avenir en équipe de France.
Rapide.
Voyage de 1000 km commence par un pas et je pense que ça peut être la surprise de l'Euro à venir.
Et pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas?
Les bookmakers
2020, où on fête les 50 ans de l'UEFA, de la Confédération de football européenne. Je crois, c'est pour ça qu'on a l'euro à travers les différentes grandes villes d'Europe.
Tu crois que c'est pour ça, c'était un désir de
ouais, je crois qu'il y avait un délire comme ça. Bon, je ferai mon nom à culpa d'ici demain. En tout cas, un grand merci à toutes les auditrices et les auditeurs de Beurre FM de nous avoir suivis. Le fil de l'info, on rappelle l'US Open aussi qui terminera en fin de semaine. Daniil Medvedev écarte donc Stan Wawrinka et file donc en demi-finale. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Anna Guézard-Boikaz de m'avoir accompagné et aussi à Alison Nkunku, sans oublier Vivien Bouyibonga, Simon Balachef, le rédacteur chef aussi, Mamadou Lamine Mané. Et notre réalisateur Hugo. Bye bye et rendez-vous demain à la même heure, 19h-20h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre.
Retrouvez Timesport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.